Décryptage. Véronique Rigolet.
Bonsoir à tous. La série dans Décryptage ce soir, deux mois après la chute de la dictature, la difficile transition vers la démocratie. Il a mis fin à un demi-siècle de dictature bassiste et 14 ans de guerre civile, soulevant les espoirs d'un peuple tout entier. Ahmad al-Sharr, l'ancien djihadiste devenu l'homme fort de la nouvelle Syrie, est désormais président par intérim. Désigné la semaine passée par les factions armées qu'il dirigeait et balayant au passage la Constitution, le Parlement et se donnant 3 ou 4 ans avant d'organiser de nouvelles élections. Un flou sur la période d'intérim et une concentration des pouvoirs qui inquiète et laisse même craindre à certains une nouvelle dictature. Quelle transition, quel avenir pour la Syrie avec Ahmad al-Sharr seul aux commandes. On en parle ce soir avec nos invités. Dans ce studio, David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur également associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient stratégique et auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique aux éditions L'Arbatan. Bonsoir.
Bonsoir.
Également à mes côtés, l'ancien ambassadeur de France en Syrie, Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne et auteur de Diplomatie française et également de La longue nuit syrienne parue dans la collection Alpha Essai. Bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à tous les deux sur RFI. Michel Duclos, la nomination d'al-Sharr comme président par intérim, est-ce que c'est un coup d'État militaire ou bien au contraire un gage de stabilité dans une Syrie toujours extrêmement fragile ?
Je crois que, dans tous les cas, dans l'esprit de al-Sharr, c'est le début d'une consolidation d'un pouvoir qui reste fragile, mais qui était encore plus fragile quand il n'y avait pas au moins l'aval des différents groupes armés qui l'avaient conduit au pouvoir. Il faut quand même se souvenir que HTC, donc les miliciens qui ont porté al-Sharr à Damas, c'est au maximum 30 000 hommes, dont quelques milliers d'étrangers, et qui en plus, ces miliciens, c'est un assemblage de différents groupes. Voilà, donc c'est ça sa base initiale. Les milices pro-kurdes au nord du pays, c'est à peu près 100 000 hommes. Les Kurdes, c'est 100 000 hommes des forces démocratiques syriennes. Il y a des groupes au sud qui ont fait aussi allégeance. Là, leur nombre est moins bien connu, mais tout cela, ça forme quand même un ensemble sur lequel l'autorité de al-Sharr ne peut s'affirmer que par son charisme personnel, qui est manifestement incontestable. Et par ailleurs, si ces groupes, à un moment donné, décidaient vraiment de l'adouber. C'est ce qui s'est passé et c'est pour ça que c'est un élément de consolidation de son pouvoir, ni plus ni moins, bien sûr.
David Rigoulet-Rose, la nomination d'al-Sharr à la tête de l'État, c'est juste une officialisation de la réalité. C'était l'homme fort de la Syrie, il avait besoin de ce gage de stabilisation en plus.
Oui, de toute façon, il y a une réalité qui s'est imposée. Donc, à l'issue du renversement de Bachar al-Assad, il était le chef de la principale force qui avait conduit à ce renversement. Alors, avec d'autres, évidemment, et se posait le problème, d'ailleurs, effectivement, de la fragmentation, de la multiplicité de ces groupes.
Il est d'ailleurs nommé par ses factions, factions qu'il dirigeait lui-même.
Oui, justement, parce qu'il y a...
Aucun pourrait dire qu'il est nommé par ses amis.
Il s'est imposé, finalement, et il a imposé l'idée d'une dissolution des groupes, puisqu'elle a été annoncée. Mmh. Et il y a l'enjeu, effectivement, du désarmement, qui est central, dès lors qu'une autorité étatique veut s'installer, parce que c'est toujours l'enjeu principal. Et là, ça va être compliqué, de toute façon, parce qu'il y a plusieurs paramètres sur lesquels il n'a pas totalement la main. Il y a le paramètre kurde, et ça, c'est par rapport à la Turquie. Et évidemment, il est aussi débiteur par rapport à la Turquie, donc c'est compliqué. Et puis, au sud, il y a les Druzes, qui ont manifesté le fait de... une logique de prudence par rapport à, aux velléités de désarmement, parce qu'ils veulent, ils attendent, c'est, ils attendent de voir un petit peu, mais il y avait une cohérence effectivement à imposer, à officialiser une situation de fait pour une gouvernance qui s'annonce quand même complexe pour, le, pour la suite.
Concrètement, il y a toujours la crainte d'un scénario à l'irakienne avec un démantèlement possible de l'État actuellement en Syrie.
Dans les faits, c'est déjà en partie le cas, de toute façon, puisque même lorsqu'il y avait le régime de Bachar al-Assad, il y avait une situation de fragmentation avec l'Est syrien, qui était contrôlé par les FDS, les forces démocratiques kurdes, et avec le soutien américain. Il y avait une forme de protectorat turc déjà au nord, juste avant la zone d'Idlib, d'où est partie l'offensive. Et puis, il y avait des îlots d'autonomie, comme autour de Souweïda, avec les Druzes. Donc, de toute façon, il y a une réalité, qui est une réalité ethno-confessionnelle, complexe en Syrie, qui préexistait, effectivement, qui n'a pas disparu.
Michel Duclos, ce flou total sur la durée de la transition, le fait qu'il n'y ait plus de parlement, plus de constitution, que toutes les élections soient renvoyées à dans 4 ans, c'est pas un facteur de déstabilisation à plus long terme pour le pays ?
Il y avait plus de parlement, de toute façon, ouais. D'ailleurs. Vous savez, le parlement chez
Assad... Mais c'est Al-Sharré qui même... doit former lui-même un conseil législatif, oui. Intérimaire, qu'il contrôlera donc.
Oui, et c'est, la constitution était bien sûr inapplicable, et tous les Syriens sont d'accord pour dire que maintenant il faut un processus constitutionnel pour élaborer une constitution. Alors, le flou sur le calendrier, je crois que tous les gens qui sont penchés sur les questions de transition, notamment dans le cadre des Nations Unies, ont dit qu'il ne fallait pas se précipiter. Il est sûr que si on faisait des élections maintenant... Ce serait très bizarre, puisque la moitié de la population est déplacée, la diaspora n'est pas identifiable, et puis les gens se battent pour survivre. Et ce serait bizarre qu'il y ait des élections, si vous voulez. Maintenant, 4 ans, c'est vrai que c'est un horizon très éloigné. Et donc là-dessus, il y aura, j'espère, des débats.
On aurait peut-être pu réunir un conseil national, disent certains.
Alors, Il avait évoqué, lorsqu'il est arrivé à Damas, l'idée d'un dialogue national, qui devait commencer d'ailleurs en janvier. Là, effectivement, il a à la fois reculé les échéances et par ailleurs donné quelques indications plus précises de procédure. Il a dit qu'il allait constituer 2 comités. Un comité qui lui donnerait des conseils pour constituer un conseil législatif, donc un parlement de... intérimaire, de substitution, et un comité pour déployer une plateforme de dialogue national, où là, il fera une sorte de grande consultation en vue d'un document constitutionnel. Donc, c'est à la fois, ça reste assez vague, il n'y a pas de précision sur le calendrier, mais malgré tout, les Syriens qui l'ont entendu le 30... eu l'impression, d'ailleurs, que c'est quand même la première fois qu'un chef d'État s'adressait à la nation. Pour nous, ça nous paraît banal.
C'était préenregistré, mais certes, c'est la première fois qu'il s'adressait à la nation syrienne.
En Syrie, ça ne s'était jamais fait. Il s'est adressé brièvement, mais dans un arabe très convenable et avec des mots qui ont touché, manifestement, le peuple syrien. Il ne s'est pas présenté comme un chef auquel tout le monde avait obéi. Il s'est présenté comme le serviteur du peuple qui avait pour mission de rétablir l'État, justement, en donnant les précisions que je viens d'indiquer. Alors, encore une fois, il reste énormément d'incertitudes. Clairement, jamais on parle de parti politique. Il n'y en a pas. En réalité, on parle des composantes de la société... On parle d'individualité, tout cela, c'est effectivement éloigné de nos schémas habituels.
Vous comprenez les inquiétudes de certains en Syrie, et notamment de ceux qui formaient l'opposition à Bachar el-Assad, cette 60aine d'intellectuels qui ont signé, après le discours du président, cette pétition pour demander la restauration de la liberté de réunion, de manifestation et de croyance. Il y a quand même une forme d'inquiétude dans le pays.
Il y a une forme d'inquiétude, surtout que, moi je ne suis pas allé à Damas, mais tous les gens qui vont disent que quand même il y a un climat extraordinaire de liberté, et notamment la liberté d'expression est totale actuellement. Mais il n'y a pas beaucoup, par contre, de forces organisées. Il n'y a pas de contrepoids. Et c'est cela qui peut inquiéter, notamment les intellectuels. Alors, surtout si on se souvient qu'en 2000, par exemple, lorsque Bachar est arrivé au pouvoir, il avait aussi créé un climat de liberté. Et pendant quelques mois, les intellectuels sont réunis. À ce moment-là, on appelait ça des salons à Damas. Et on critiquait le régime, on fait des propositions, etc. Et ça s'est refermé assez vite. Donc ça, c'est une crainte qu'on peut avoir, que le climat de liberté d'expression actuelle soit une parenthèse, surtout si, encore une fois, il n'y a pas des forces qui s'organisent vraiment pour faire contrepoids au pouvoir.
David Rigolet-Rose, comment vous jugez les premiers pas d'Ahmad al-Sharré à la tête de la Syrie, deux mois durant lesquels il a déjà obtenu un début de levée de sanctions, notamment occidentales.
Oui, alors, en tout cas, lui, c'est un personnage intéressant, parce qu'il est intelligent, il saisit bien les rapports de force, les enjeux, la complexité de la situation syrienne, qu'il ne minimise pas. Concernant les sanctions, il sait que l'enjeu fondamental, notamment, c'est la question de la pauvreté aussi, hein, qui va être déterminante pour la suite des événements, parce qu'il y a 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Il sait qu'il y a des attentes qui sont immenses. Il y a un début de reprise économique, mais qui est quand même très timide. Une forme de respiration économique qui a repris, mais il sait que l'enjeu, c'est la levée des sanctions. Alors, quand vous évoquez la levée des sanctions, il faut faire attention. On parle... C'est pas les sanctions en tant que telles, c'est plutôt les obstacles en termes humanitaires.
Humanitaire, oui.
Notamment, les Américains ont accepté de lever
un
certain nombre de blocages sur des financements à caractère humanitaire jugés impératifs, impérieux. Pour le reste, en revanche, pour les vraies sanctions, celles-là, il sait à quel point. Là, c'est pour le coup, c'est un moyen justement de voir ce qui va être prêt à faire, parce que il sait qu'il a besoin de cette levée des sanctions. Il le réclame depuis le début, et on attend justement qu'il donne des gages. Il y a une forme de conditionnalisation implicite, sinon explicite, notamment des acteurs occidentaux, mais pas seulement, hein, y compris les pays du Golfe, par rapport à la gouvernance future. Et il sait que c'est central.
On l'a vu justement multiplier les gages, les promesses de transition démocratique. Est-ce que, à votre sens, Michel Duclos, il a commencé à gagner quelque peu la confiance des Occidentaux, ou est-ce qu'ils sont toujours dans une sorte de défiance, même si il a troqué l'habit militaire pour le costume de pièce, il a taillé sa barbe, il y a quand même son passé djihadiste qui freine justement cette levée des sanctions, à votre sens ?
D'abord, je me permets de nuancer un peu votre propos. Il ne parle pas vraiment de démocratie. Hein.
Il
parle d'inclusion.
C'est nous qui parlons voilà. Démocratie dans la feuille de route qu'on lui a demandé,
il
d'ailleurs.
Parle d'inclusion. Il parle d'inclusion.
On projette souvent, en fait.
C'est vrai.
Mais son projet fondamental, c'est quand même de rétablir l'ordre, de rétablir l'unité du pays. Il parle de souveraineté. Et en plus... Là, il a passé, avant les événements qu'on vient d'évoquer, il a passé un mois et demi à recevoir beaucoup de gens de la société syrienne, pas seulement des groupes militaires, aussi des hommes d'affaires de l'étranger auxquels il accorde extrêmement d'importance. Parce que, une chose qu'on n'a pas dit, c'est que, quelles que soient ses options idéologiques, islamistes ou pas, c'est en tous les cas un libéral sur le plan économique. Il ne veut pas recommencer le truc du socialisme panarabe. Hein. Il a bien compris que pour que l'économie reparte, il faut respecter le capitalisme, et il compte sur les hommes d'affaires syriens de l'étranger. Alors, est-ce qu'il a vraiment convaincu les Occidentaux? Ma réponse, c'est de dire que les Occidentaux ne s'intéressent pas tellement à la Syrie, en réalité. Il y a un pays qui s'y intéresse, c'est la France, ou qui devrait s'y intéresser. Et il y a les États-Unis qui sont engagés dans le Nord-Est et qui voient ça donc, du côté des Kurdes, et qui voient ça aussi un peu à travers le prisme israélien. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et Je crois que pour les Français, ils ont été très échaudés par leur expérience syrienne. Cette image du djihadiste reconverti, c'est évidemment une image qui a ses limites, qui ne peut pas convaincre beaucoup de gens. Et il y a, parmi les spécialistes français, des gens qui disent « spécialiste un jour ».
Djihadiste un jour, djihadiste toujours.
Moi, j'aurais un jugement plus nuancé. Je ne sais pas ce que ce personnage pense au fond de lui-même. On ne le saura pas. Mais est-ce que, oui ou non, il veut être une figure nationale? Et si c'est le cas, tout en tenant compte de sa base islamiste, tout en tenant compte aussi du caractère conservateur de la bourgeoisie et de la population sunnite de ce pays, pour l'essentiel. Il est conscient qu'en Syrie, c'est plus compliqué que de dire qu'il n'y a que des musulmans conservateurs. Il y a aussi des sunnites qui ont une vision plus différente de la religion. Et puis, il y a les alaouites, les chrétiens, les kurdes, etc. Donc, s'il veut être une figure nationale, il est obligé de tenir compte des différentes composantes de la société syrienne. Et pour moi, c'est ça la vraie question. Et au fond, pour un pays comme le nôtre, qui est quand même l'un des rares pays qui connaissent un peu la Syrie, c'est cette carte-là qu'il faut jouer. Et effectivement, les leviers, comme on vient de l'indiquer, ils sont notamment économiques. Parce que dans la situation économique où est ce pays, ça ne peut que mal finir si on ne trouve pas les moyens de sortir de la pauvreté abjecte qui est celle de la masse des Syriens actuellement.
David Rigolet-Rose, on le disait, un barbe taillée, costume de pièces, c'est du pragmatisme plutôt qu'une véritable mue idéologique, même si, comme le dit Michel Duclos, l'homme peut se révéler par rapport à la tâche qui lui incombe désormais à la tête de l'État syrien.
Les circonstances et les contraintes font beaucoup, de toute façon. Il y a une logique assumée de transformiste, on va dire. Effectivement, il ne peut pas effacer son ADN d'origine. Hein. D'ailleurs, il ne les sait pas. Il dit que les choses sont différentes aujourd'hui. Donc, il y a une vraie logique transformiste. Une forme de... Alors, d'aucuns parlent de catharisation, hein, puisque il y aurait cette logique transformiste le ferait basculer dans l'orbite de l'islam politique. D'où les relations avec à la fois le Qatar et la Turquie, évidemment. Mais sur le fond, de toute façon, l'enjeu, d'une certaine manière, est ailleurs. Il est de dire, prouvez-le, et nous, il y a une logique contractualisante qui peut être mise en œuvre, justement, pour favoriser une transition qui soit, on va dire, cohérente et acceptable. Et là, on retrouve évidemment l'enjeu des sanctions, bien sûr, mais qui ne se réduisent pas, qui ne sont pas le monopole des Occidentaux, même si évidemment le verrou américain est central. En plus, il y a la loi César qui a pesé extrêmement lourd. Mais là, on va retrouver les pays du Golfe, et notamment l'Arabie Saoudite.
Et qui serait essentiel par la reconstruction la réintégration de la Syrie sur la scène internationale.
Et également pour le pivot que ça peut constituer avec Washington. Parce que c'est pas hasard s'il va voir l'Arabie Saoudite. Il sait que c'est, d'une certaine manière, c'est là que ça se passe pour obtenir des choses, sans parler du fait que les financements du Golfe seraient évidemment, mutualisés à partir de Riyad. Et c'est le pragmatisme, il serait là. C'est-à-dire que, quand bien même qu'il ait changé ou pas, à la limite, le problème est ailleurs.
En deux mots, Michel Duclos, deux mois, c'est encore un peu court. Les prochains mois seront décisifs. Nous en apprendrons plus sur la gouvernance d'Al-Sharqi.
Oui, mais je crois qu'il faut être patient. Ça ne va pas se décanter très vite. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est que, comme vient de le dire David, ça dépend beaucoup de nous. Ça dépend de notre capacité à créer les conditions économiques qui permettent au pays de repartir.
Et ça sera le mot de la fin. Merci Michel Duclos, conseiller spécial à l'Institut Montaigne, auteur de Diplomatie française et de La longue nuit syrienne aux éditions Collection Alpha Essay. Merci à vous David Rigolet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, auteur de La République islamique d'Iran en crise systémique, séparée aux éditions L'Harmattan.